E-Radio, l'invité de la rédaction, Lutzi Funke.
En février, le nouveau Contraception Policy Atlas Europe, qui classe 46 pays européens sur leur politique d'accès à la contraception, est sorti. En tête du classement, le Luxembourg, le Royaume-Uni, la France et la Belgique, tandis que la Pologne, la Hongrie et l'Arménie ont obtenu les scores les plus faibles. Mais malgré un bon accès à la contraception en France, celle-ci n'est pas repartie de manière égale et reste majoritairement l'affaire des femmes. Nous recevons aujourd'hui Maya, porte-parole de l'association féministe soignante Pour une meuf, et Hélène du collectif des Gonades, qui ont animé un atelier sur la charge contraceptive lors de la Journée mondiale des droits des femmes. Bonjour Maya.
Bonjour.
Bonjour Hélène.
Bonjour.
Tout d'abord, qu'est-ce qu'on entend exactement par charge contraceptive ?
Alors la charge contraceptive, à la base, c'était définie par des travaux sociologiques, en fait, qui ont montré qu'il y a une répartition genrée des rôles au sein de la société et au sein des couples. Et du coup, la charge contraceptive, c'est un peu, ça se base un peu sur comme le concept de charge mentale, c'est tout le travail invisibilisé, en fait, que les femmes font pour gérer la contraception. Donc ça passe par une organisation avec des rendez-vous médicaux, les contraintes de prise du traitement, les effets secondaires aussi potentiels qu'il peut y avoir. Donc voilà, c'est tout ce travail qui est assez invisible et qui n'est pas du tout partagé.
Comment est-elle repartie en France ou en Europe ?
C'est difficile en fait d'avoir des chiffres exacts là-dessus. Aujourd'hui, la contraception elle repose toujours sur les femmes en majorité. Et mais il y a des moyens, c'est aussi le sujet de l'atelier qu'on a mené le 4 mars. En fait, il y a des moyens de partager la charge, de s'impliquer dans la contraception en couple ou en tout cas de prendre ses responsabilités en fait. Chacun et chacune, et aussi de s'investir, de pas ignorer en fait, de pas passer sous silence en fait ce volet contraception qui en fait fait partie aussi de la vie de tous les jours.
Comment est-ce qu'on peut mieux repartir cette charge ?
Alors il y avait des différentes pistes qui ont été évoquées lors de l'atelier. En fait, c'était plutôt un échange de pratiques, de témoignages. Et un apport aussi, d'essayer de débattre sur ces sujets-là. Et par exemple, il y a le fait d'aller aux rendez-vous médicaux avec sa compagne pour être aussi face au médecin, se rendre compte en fait des positionnements et puis des questionnements et comment le rendez-vous est mené. Ça peut être aussi mais aussi se dire c'est pas forcément la femme qui doit prendre la contraception, et aussi de regarder en fait en tant qu'homme qu'est-ce qu'il y a comme méthode, notamment évidemment le préservatif, mais il existe aussi d'autres méthodes aujourd'hui, et du coup c'est un des axes d'action des Gonades.
On parlait du fait qu'il y avait des méthodes masculines qui peuvent être utilisées, qui sont encore en cours de recherche, mais qui sont déjà utilisées en fait par certains hommes, mais que même avant de prendre la méthode testiculaire, il y a d'autres manières de s'impliquer. Et effectivement, justement, comme on parlait du fait que la charge contraceptive c'est un travail invisible, déjà de conscientiser, de visibiliser ce travail, de poser des questions à sa partenaire, de c'est quoi la méthode qu'elle utilise, c'est quoi les contraintes que ça lui donne, c'est quoi les effets secondaires potentiels qu'elle a, tout ça. C'est déjà, mine de rien, une manière de se rendre compte que si les hommes ne sont pas papas ou n'ont pas été confrontés à une IVG, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui fait le travail pour eux, quoi.
D'où vient cette asymétrie dans la répartition de la charge contraceptive ?
Je pense que ça s'inscrit complètement dans le système patriarcal où on est aujourd'hui, en fait. C'est la femme qui est potentiellement enceinte, en tout cas qui subit la grossesse non voulue, la charge, elle repose sur les femmes de base. Après, il faudrait reprendre historiquement, en fait, mais c'est à la femme de prendre, puisque c'est elle qui sera enceinte.
Ouais, c'est multifactoriel. Il y a des représentations, effectivement, de toute la sphère reproductive. Elle a toujours été assignée aux femmes en général. Après, il faut remettre aussi dans le contexte historique. À l'époque, le développement de la contraception, ça a quand même été une révolution, en fait, parce que bah, les femmes, elles ont pu prendre justement en charge, enfin, le contrôle de leur corps à ce niveau-là. Aujourd'hui, c'est la contraception, elle est légale, on se pose plus trop la question. Donc nous, du coup, on remet un petit peu en question ces normes, ces contraintes. Mais je pense qu'à l'époque, c'était pas trop leur question, quoi, c'est sûr. Et puis, je pense qu'aussi, on réfléchit, la contraception, on la pense vraiment comme un contrôle de la capacité gestationnelle, donc de grossesse. Et peut-être que ce serait intéressant de réfléchir plus globalement en termes de capacité de contrôle de la reproduction. Déjà, ça change un petit peu le regard. C'est plus juste un problème de « on tombe enceinte », mais de « on se reproduit ». Et du coup, bah là, les deux gamètes, on va dire, rentrent en rôle, enfin, on rentre en jeu. Et du coup, peut-être qu'on arrivera mieux à penser le rôle des hommes comme ça.
Comment le mode de contraception a-t-il évolué? Et est-ce qu'il y a eu des différences observables à l'échelle européenne?
Pas tellement, c'est finalement assez stable. Le développement, en tout cas, alors c'est évidemment toutes les méthodes dites féminines qui ont été le plus développées, et finalement, il y a assez peu de réelles avancées depuis que ça a été légalisé. C'est souvent, en fait, plutôt des changements de posologie, d'hormones, mais il n'y a rien de révolutionnaire. En tout cas, c'est à peu près les mêmes méthodes qu'avant, hein, la pilule, le dispositif intra-utérin, donc qu'on... plus communément appelé stérilet ou l'implant, tout ça, ça existe depuis longtemps. Maintenant, par contre, il y a les contraceptions définitives qui ont été légalisées assez tard en France par rapport à d'autres pays. Hein, c'est depuis 2001, donc ça aussi, ça joue aussi dans la répartition par rapport à d'autres pays. Et puis, les méthodes testiculaires, je pense qu'Hélène en parlera un peu plus, mais finalement, même celles-ci, elles sont pas nouvelles et elles existent, en tout cas, on en parle depuis la légalisation de la contraception, finalement.
Mmh. Après, en Europe, il y a quand même des disparités sur la pilule qui est prise plus ou moins selon certains pays. Et aussi par rapport aux vasectomies, du coup, sur les stérilisations définitives. En fait, selon les pays, il y a vraiment des disparités. Par exemple, au Royaume-Uni, il y en a beaucoup plus qu'en France. En Espagne aussi, il me semble. Enfin, vraiment, il y a vraiment des différences entre pays. Après, comment les expliquer? Peut-être un regard différent, faudrait voir. Mais c'est vrai que là, il y a eu récemment... un rapport en France sur le fait que les vasectomies augmentaient, etc. Enfin, ont augmenté, mais ça reste dérisoire par rapport à d'autres pays.
Quelles possibilités ont les hommes aujourd'hui ?
Alors déjà le préservatif, qui est quand même la méthode de contraception auquel on pense le plus facilement quand on est un homme. Et donc aussi de l'autre côté, donc en définitif, la vasectomie, qui peut être utilisée peut-être facilement par des couples qui ne veulent plus d'enfants, et donc du coup un peu plus tard dans la vie. Et entre les deux, du coup aujourd'hui, il y a des expérimentations, il y a des études qui sont faites sur les contraceptions, on appelle ça des contraceptions testiculaires, mais plus temporaires, c'est-à-dire qu'elles sont réversibles. Et du coup, c'est soit le port d'un anneau, ou de dispositifs en fait qui fait que techniquement en fait les testicules remontent à l'intérieur du corps parce que à l'intérieur du corps au-dessus en fait comme avant l'adolescence les testicules avec un dispositif voilà un slip un jockstrap ou l'anneau il fait que du coup on replace les testicules à l'intérieur du corps pour qu'ils soient à une température plus haute que dans les bourses. Et en fait, ça permet donc du coup d'être contracepté avec un suivi. Faut faire un spermogramme. Donc le spermogramme, ça permet de connaître la concentration de spermatozoïdes dans le sperme. Et en fait, du coup, comme ça, l'homme peut être contracepté de manière temporaire, réversible. Il faut le porter 15 heures par jour, etc. Enfin voilà, il y a des règles à suivre. Du coup, c'est ce que proposent les gonades en atelier. Donc des ateliers de sensibilisation pour connaître la méthode et aussi des ateliers de fabrication. Donc soit en couture, soit avec la fabrication d'anneaux qui sont en silicone.
Parce que ce n'est pas encore très répandu.
Alors en fait, c'est des méthodes qui sont encore en expérimentation, mais les conclusions sont probantes. Et aujourd'hui, elles ne sont pas validées par les différentes instances en médecine, mais c'est une contraception qui fonctionne. Et en fait, ce qui est important, en fait, c'est que il y a une réelle demande au niveau de la société sur ces méthodes. Et en fait, c'est parce qu'elles sont pas approuvées que du coup les hommes cherchent à faire, cherchent à essayer de trouver des méthodes en autonomie. Et du coup, c'est des études. Il y a des livres là-dessus aussi pour mieux comprendre comment ça s'est créé, etc. Mais il y a un centre d'études à Toulouse, notamment, sur un groupement de recherche et d'action.
Et la pilule pour homme, on en est où actuellement ?
Voilà, la pilule pour homme, c'est toujours en expérimentation. En fait, ça fonctionne. Après, elle n'est pas...
Ouais, en plus, je crois que c'est surtout des problèmes de libération hormonale. Donc, la pilule, donc la contraception vraiment orale pour la testostérone, ça semble assez compliqué à réaliser. Donc, du coup, ce qui est en test en contraception hormonale, il y a des injections de testostérone. C'est des médicaments, d'ailleurs, qui sont déjà utilisés, mais dans d'autres indications que la contraception, sauf que c'est normalement, elle est reconnue hein, par l'OMS comme il y a un protocole reconnu pour la contraception masculine, mais en France, il faut que ce soit prescrit, la première ordonnance, il faut qu'elle soit prescrite par un andrologue. Je crois qu'il y en a deux en France qui le font, donc c'est un petit peu compliqué. Et sinon, là, il y a des choses qui sont en test, c'est plutôt des gels qu'on met sur les épaules, donc c'est du gel de testostérone, et donc là, il y a un passage transcutané, en fait, donc c'est pas comme la pilule, c'est pas oral. Donc il y a des données assez probantes. C'est pareil, ça avait aussi été étudié hein, dans les années 70-80. Il y a des petites choses... Il faut faire attention parce que comme c'est sur la peau, il ne faut pas toucher les gens pendant trois heures parce qu'il ne faut pas transmettre les hormones. Mais là, ça commence à sortir. Donc,
Après, les premiers freins, en fait, c'est par rapport aux effets secondaires. Mais on se pose beaucoup moins la question pour les... Enfin, il y a plein d'effets secondaires avec les dispositifs hormonaux pour les femmes et on ne s'est pas posé la question. Alors que pour les hommes, c'est ça qui crée les freins aussi à ces dispositifs.
Oui. Oui, c'est vrai que souvent, quand on interroge même les médecins, la première chose qu'on voit, c'est les inquiétudes par rapport aux performances sexuelles, notamment. Alors, c'est assez rigolo parce que on pense pas aux troubles cardiovasculaires potentiels. On pense d'abord aux troubles de l'érection, aux troubles de la libido. Donc, ça aussi, ça traduit quand même bien des stéréotypes de genre assez ancrés. Alors que bon, bah, les femmes, les performances sexuelles, les troubles de la libido, on sait très bien hein, que les pilules, les contraceptions hormonales peuvent jouer là-dessus. Et bon, on considère que c'est anecdotique, quoi.
Et en ce qui concerne la législation, est-ce qu'il y a eu des avancées ?
Alors déjà, il faut savoir que depuis janvier 2023, il me semble, la loi elle a changé sur l'accès à la contraception d'urgence, donc là, ce qu'on appelle la pilule du lendemain. Maintenant, toute personne, c'est précisé comme ça dans la loi, peut aller en pharmacie et demander la contraception d'urgence, alors qu'avant, dans la loi, c'était écrit juste pour les femmes. Donc ça, c'est déjà important de savoir que en tant qu'homme, en tant qu'ado garçon, on peut aller à la pharmacie s'il y a eu un rapport non protégé, enfin sans contraception, et demander la contraception d'urgence pour sa conjointe. Ça, c'est déjà une belle façon de s'impliquer, parce que pour les jeunes filles, même les femmes plus âgées, c'est pas toujours un moment très agréable d'aller demander ça à la pharmacie. Donc voilà, pour les médecins, c'est intéressant aussi de se dire que ça peut être une porte d'entrée pour aborder le sujet avec les hommes, en fait, de les prévenir de ce changement-là. Et puis l'implication, de toute façon, il y a des études hein, qui montrent que l'implication du partenaire dans la méthode utilisée, même si c'est une méthode féminine, elle a tendance à diminuer les échecs de contraception. Donc la haute autorité de santé, hein, qui est un petit peu notre chef aux médecins, qui nous donne les recommandations, ça fait depuis 2013 hein, qu'elle dit aux médecins qu'il faut impliquer le partenaire dans la contraception et aussi avoir que le partenaire ait aussi une information sur la méthode utilisée pour diminuer le risque d'échec.
Comment d'autres pays en Europe traitent ce sujet ?
Alors, par rapport à la vasectomie, là, je vais surtout parler de ça parce que c'est une méthode qui est reconnue. C'est sûr que les pays anglo-saxons, ça a été légalisé beaucoup plus tôt, donc ils ont beaucoup plus accès. Faut aussi pas oublier que nous, on vit dans un pays où la contraception, elle est quand même prise en charge et remboursée, ce qui n'est pas le cas partout. Donc voilà, aux États-Unis et tout, la contraception, ils sont obligés de la payer tous les mois. Donc c'est aussi pas forcément le même rapport. Avoir une contraception définitive, c'est... ils ne se posent pas aussi la même question, en fait. C'est quand même de l'argent économisé. Donc faut, voilà, il y a multifactoriel, mais il y a le contexte économique à prendre en compte. Après, j'ai vu qu'en Belgique, récemment, c'est dans les deux dernières années, il y a une députée qui a soumis une loi. Je crois qu'elle a été votée justement pour le partage, pour promouvoir le partage contraceptif. Et du coup, c'est vraiment une loi qui vise à informer des méthodes de contraception par les médecins, par l'école aussi, et informer les deux genres, en fait. C'est pas une information ciblée des filles, c'est vraiment que les garçons doivent aussi connaître les méthodes de contraception, y compris féminines, même celles qu'ils n'utilisent pas. Ça a été voté, ouais, je crois, il y a un ou deux ans, en Belgique. Mm-hmm.
Et il y a aussi un rapport différent à l'accès. Enfin, il y a un clivage en Europe par rapport à l'Europe de l'Ouest et l'Europe de l'Est sur l'accès à l'information. Il y a un rapport en fait de l'European Parliamentary Forum for Sexual and Reproductive Rights qui ont fait un rapport là-dessus. Et en fait, vraiment, ils voient vraiment une frontière entre l'Europe de l'Ouest et l'Europe de l'Est au niveau information, comme tu disais, sur l'éducation et même sur... Nous, on a les plannings familiaux en France qui permettent de trouver des informations et aussi des sites internet, question sexualité par exemple, qui est très bien fait. Et en fait, il y a aussi dans des pays où il n'y a même pas de sites gouvernementaux sur la contraception. Donc en plus du coût, il y a des pays où ce n'est pas du tout remboursé, il y a aussi l'accès, enfin l'information en fait, avoir les informations pour pouvoir choisir.
Est-ce que l'organisation des systèmes de santé joue un rôle dans les pratiques contraceptives ?
Oui, c'est ça. Alors là, c'est surtout les travaux de Cécile Ventola, qui est sociologue, qui a fait une thèse où elle a comparé un petit peu le système anglais et le système français. Donc, c'est pas la même organisation. En France, c'est surtout des médecins libéraux. En Angleterre, c'est des médecins qui sont salariés et qui sont, en gros, rémunérés selon à quel point ils respectent les recommandations. Et du coup, par exemple, eux, pour les consultations de contraception, ils ont vraiment une plaquette avec toutes les méthodes qui existent, et c'est recommandé quand quelqu'un vient pour la contraception, qu'il présente toutes les méthodes, quel que soit ce qu'ils estiment mieux pour la patiente devant eux ou ce qu'ils en pensent, ils doivent le faire. Et du coup, nous, en France, on a vraiment le truc un peu médecine centrée patient, on s'adapte aux patients, c'est très bien, mais du coup, des fois, on a tendance aussi à un petit peu... projeter, les médecins peut-être projettent certaines choses en se disant bon, cette patiente elle a tel âge, elle a tel mode de vie, je vais pas lui parler de cette méthode là parce que ça va sûrement pas l'intéresser, et du coup on fait finalement un peu le tri. Donc par exemple la contraception définitive en France, c'est très très tabou de parler de contraception définitive dès les premières consultations de contraception. Alors qu'en soi, ça ne veut pas dire qu'on va inciter les jeunes filles de 17 ans à aller faire une ligature de trompe, mais déjà les informer et leur dire bah, « c'est peut-être pas la question aujourd'hui, mais sachez que ça existe et que c'est légal », ça pourrait déjà être important pour la suite. Donc voilà, déjà en termes de recommandations, c'est pas pareil, parce qu'en France, les médecins ont une certaine latitude qui laisse peut-être un peu plus de place à leur propre représentation. Mmh. Qu'en Angleterre, par exemple.
On peut observer, par exemple, un parcours contraceptif. Au début de la vie sexuelle, on préconise des préservatifs. Après, si on est installé en couple, etc., après avoir fait des tests IST, c'est la pilule. Enfin, et après, un peu plus tard, quand on a des enfants, c'est le stérilet. Alors que, en fait, aujourd'hui, le stérilet, il est préconisé aussi pour des femmes nullipares qui n'ont pas eu d'enfants. Enfin, mais il y a vraiment un cheminement, en fait, et qui fait que, en fait, même entre femmes, quand on en parle... On en parle directement, c'est la pilule ou le stérilet. Enfin, selon l'âge qu'on a, en fait, on se rend compte que les méthodes, elles sont quand même très... il y a l'implant, et puis il y a aussi le remboursement en France aussi de certaines méthodes de contraception qui seraient plus confortables, mais qui ne sont pas remboursées, donc du coup, qui imposent... Mais c'est aussi une piste, le partage du coût de la contraception quand les méthodes ne sont pas remboursées. On peut contacter aussi, la mutuelle, on rembourse peut-être une partie, mais ça peut être aussi une charge partagée en couple, même si c'est la femme qui le prend.
Merci beaucoup.
Carrément.
Merci.
Euradio vous a présenté l'invité de la rédaction. Retrouvez les podcasts de la rédaction dès maintenant sur euradio.fr.